Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de cette édition d'information, plus de 170 000 personnes déplacées à Minova depuis que l'activisme du M23 s'est étendu au sud Kivu. Les conditions de vie de ces derniers sont précaires alors que plusieurs activités humanitaires sont suspendues dans cette région, indique OCHA dans un rapport public publié hier mardi. Vous allez suivre les condensés de ces rapports dans quelques instants. Pénurie des carburants dans les stations-service de Lubumbashi, la population dit être au bout du rouleau à cause notamment du coût des transports en commun qui est passé du simple au double. Les pétroliers, pour leur part, rassurent que la situation sera régularisée dans un futur très proche. Plus de détails avec Jean Gandou. Notre invité est Roger Tatawa Makolo, directeur général de la coopérative Kawa Kanzururu, basée dans le secteur de Rouenzori au Nord Kivu. Il revient sur les échanges de trois jours au Parlement fédéral belge qui ont réuni les agences œuvrant dans le domaine de la vérification et certification des produits congolais sur les marchés européens. Bonjour à tous, bienvenue à ce journal sur Radio Kapi. La crise du M23 s'est étendue au sud Kivu, où des affrontements armés ont fait de nouveaux déplacés depuis le 18 janvier. Les rapports de OCHA, publiés hier mardi, parlent de plus de 178 000 personnes déplacées à Minova entre les 4 et les 20 janvier 2025. Et au moins deux personnes ont été tuées par des obus tombés sur Minova le 19 janvier dernier, alors que plusieurs activités humanitaires sont suspendus dans cette région, selon toujours OCHA. Denise Lukeso.
La situation à Minova reste tendue et l'intensité des affrontements a occasionné la fuite de tous les déplacés des sites de Kitalaga 1 et 2 vers les localités de Kasunyu, Kitembo, Bwisha et Bulenga pour chercher refuge dans les écoles environnantes, indique OCHA dans son rapport. Une bonne partie de la population de Minova, dont les déplacés des anciennes crises, serait en déplacement vers le sud dans les localités de Nyamasasa et Kinyeziri. Dans ce même rapport, OCHA indique qu'au moins 113 blessés reçus à l'hôpital général de Minova ont été transférés à Goma pour les soins d'urgence. L'accès humanitaire est restreint sur plusieurs axes en raison de ces affrontements et plusieurs incidents de protection sont également rapportés dans cette zone, poursuit les rapports. Des sources humanitaires rapportent que 5 filles d'une même famille ont été violées par des hommes en armes dans la localité de Kalungu. Des incidents de criminalité ciblant des acteurs humanitaires ont été aussi rapportés. Ces incidents ont contraint ses partenaires à fermer momentanément son centre de transit et d'orientation pour enfants non accompagnés à Minova. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, des vagues de personnes arrivent depuis ce mercredi matin dans la partie nord de la ville de Goma. Elles viennent de Nzulo, une localité du groupement Kamuronza, où sont signalés des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Nzulo est située au bord du lac Kivu, environ 7 km de Sake, en territoire de Masisi. Chris Mukand.
Ces familles qui arrivent en masse dans les différents camps des déplacés du quartier Mugunga dans la partie nord de la ville de Goma sont celles vivant en Zulu et d'autres qui sont arrivées mardi de Minova par le lac. Pendant ce temps, d'intenses combats se déroulent dans la région de Nzulu au niveau des collines Nguilo, des combats à l'armée lourde qui ont commencé la nuit avec le pilonnage des FRDC et alliés VDP des positions des rebelles du M23 qui se situeraient au niveau de Kitembo dans le village Bouzibulenga en territoire de Kalehe au sud Kivu. La société civile qui livre ces informations indique qu'un des déplacés arrivé à Nzulu a été atteint, blessé par balle, ce qui rajoute à la panique des populations qui ont pris la direction de Goma. La même source renseigne que les FRDC, qui tiennent à repousser les rebelles du M23 et consolider leur position à Sake, ont procédé à des bombardements toute la soirée de mardi. Avec les échanges de tirs qui s'ensuivent depuis le matin, c'est la panique totale. Nous apprenons que le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, a parlé ce matin aux habitants de Nzulu et de la partie nord de la ville de Goma afin de les apaiser. Toutefois, la localité de Nzulu continue à se vider vers Goma. Chris Mukand, Radio Kapi, Goma.
Même mouvement de la population observé dans le sud Kivu, en particulier dans le territoire de Kalehe. Un jour après l'occupation par les rebelles M23 soutenus par l'armée rwandaise à Minova et les environs, la Société civile Bureau des coordinations du sud Kivu demande au chef de l'État de réorganiser les troupes au regard du danger qui guette la nation. Jean Kassami revient sur la situation humanitaire qui sévit dans Kalehe.
Minova est toujours en mouvement. Certains habitants se déplacent par crainte des obus qui tombent sur différents villages lors des échanges de tirs entre l'armée loyaliste en réponse aux tirs que les belligérants larguent à distance sur la cité de Sake où les FRDC maintiennent leur position. Un témoin présent à Minova raconte.
Il y a un mouvement de déplacés qu'on ne sait pas encore estimer à ce moment. Il y a même des morts qui sont enregistrés à Kitembo. Il y a même des blessés qui sont à l'hôpital de Panzi, ici à Boulenga. Et donc la situation est catastrophique à ce moment où je vous parle. Plusieurs villages ici, notamment à Mohanga, Kitembo, les habitants de ces deux villages viennent de se vider pour se mettre à l'abri des obus qui sont en train de tomber.
Le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu s'est dit inquiète de constater la rapidité avec laquelle les rebelles sont en train de s'emparer des agglomérations dans si peu de temps au Sud Kivu. Dans une déclaration faite hier à Bukavu, le bureau de coordination de la société civile demande au chef de l'État d'écourter son séjour en Occident et venir réorganiser les troupes, la nation étant en danger. Citation Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Au Sud Kivu toujours, parlons du port public de Kasunyu, situé à environ 7 km de la cité de Minova, en territoire de Kalehe, occupé depuis hier mardi par le rebelle du M23 qui rêvait d'une importance économique très capitale pour la région. Non seulement il génère des recettes pour l'État, il facilite aussi la fluidité du trafic lacustre des personnes et des marchandises entre Minova Goma et Minova Bukavu. Il dessert au moins 4 axes et facilite l'accès aux villages enclavés. La perte de cette infrastructure est un coup dur pour le gouvernement et pour la population de la région des Kalehe, déplore la société civile de Bouzi. Reportage de Denise Loukesso rendu par Sifa Magoro.
Deux bateaux y arrivent tous les jours, mais aussi ce port a une capacité de recevoir une trentaine de pirogues motorisées. L'importance économique du port de Kasunyu n'est plus à démontrer. Environ 40 tonnes de marchandises quittent quotidiennement les groupements de Bouzi vers Goma et Bukavu à partir de ces ports. Il facilite également le trafic des personnes sur 4 axes, Goma-Kasunyu, Kasunyu-Idjui, Kasunyu-Bukavu et Kasunyu-Kalehe. Ce port est aussi un site important pour les pêcheurs du Kalehe, ce qui génère les recettes pour l'État car tous les services étatiques habilités y étaient affectés. Perdre ces ports, ce sont les recettes qui en pâtissent et les communautés locales déplorent la société civile.
Les différentes taxes perçues des marchandises, mais aussi la navigation des personnes qui passent dans ces bateaux et ces bottes, font entrer d'économie au gouvernement congolais, ce qui va revenir aux rebelles et ceci peut renforcer leur capacité de nuisance au gouvernement congolais.
La société civile plaide auprès du gouvernement de tout mettre en œuvre pour la reconquête de ce port d'intérêt public. Goma Sifa Maguru, Radio Okapi.
La ministre congolaise aux Affaires étrangères et son homologue français en charge de l'Europe et des Affaires étrangères ont échangé ce mercredi sur la crise diplomatique entre Kinshasa et Kigali. Ces personnalités ont eu cette discussion à Davos, en Suisse, où ils participent à la 55e édition du Forum économique mondial. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Selon les comptes X du ministère des Affaires étrangères, la Congolaise Thérèse Kayikwamba et le Français Jean-Noël Barrot ont débattu sur plusieurs questions, dont celles liées au blocage du processus de Luanda. À cette occasion, la chef de la diplomatie congolaise a déploré la complaisance de la communauté internationale vis-à-vis du régime de Kigali, en dépit de ces violations répétées du droit international, telles que documentées par les récents rapports du groupe d'experts des Nations Unies, ajoute la même source. La ministre congolaise a également rappelé la responsabilité historique du Conseil de sécurité de l'ONU face à la situation qui prévaut dans l'est de la RDC et au risque d'embrasement de la région des Grands Lacs. À marge du Forum économique mondial de Davos, Thérèse Kayikwamba a en outre pris langue avec le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque. Avec son homologue tchèque, ils ont évoqué la question sur les renforcements de la coopération bilatérale entre les deux pays dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et de la défense. Ils ont également échangé sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo.
Et puis, l'Église catholique répond à l'initiative du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de réunir toutes les confessions religieuses le 9 février prochain pour une journée de prières et des collectes des offrandes spéciales en faveur des militaires FARDC qui sont au front dans l'est du pays. C'est ce qui ressort principalement de la rencontre hier à Kinshasa entre le ministre Constant Mutamba et le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, dans le but de solliciter la collaboration de l'Église catholique pour ses projets. On écoute Mgr Donatien Cholet dans ses propos recueillis par Grâce Amzati.
Je lui fais savoir que c'est notre mission comme Église de prier. La situation de l'Est, nous en sommes conscients. La situation sécuritaire, la situation humanitaire est catastrophique. Même la vie de nos militaires, personnellement, j'étais dans une mission il y a quelques années avant que la situation s'empire. Où on m'a touché de doigt la réalité de nos militaires. Il n'y a pas que de militaires. Pensons à tous ces déplacés, à toutes ces familles de personnes qui vivent dans la forêt, à toutes ces victimes des enfants orphelins. Donc, ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de la prière. Donc, ce serait l'occasion justement pour intensifier les prières que nous faisons déjà pour la paix. Chacun doit jouer sa partition. Nous ne prions pas pour gagner la guerre, nous prions pour la paix, pour que la paix soit instaurée. Et la paix, d'ailleurs, c'est la fin de la guerre. La paix, c'est que les gens se convertissent, parce que pour qu'il y ait guerre, il faut que les gens prennent des armes. Je crois que c'est là où on devrait vraiment bien comprendre les choses.
La pénurie de carburant, notamment de l'essence, dans les stations-service de Lubumbashi fait toujours parler d'elle. Les pétroliers indiquent que cette situation ne dépend pas d'eux. La population tourne les égards vers le gouvernement et lui demande de trouver des solutions idoines car elle n'en peut plus à cause notamment du coût des transports en commun qui est passé du simple au double, voire plus chez certains chauffeurs de taxis et taxibus qui font de la spéculation. Jean Gandou.
Le mois, je mets $20, mais là, je suis obligé de mettre $30 pour un peu échapper à tout cela. Que les autorités nous aident.
Le cri de cette femme est partagé par beaucoup d'autres qui sont dans la même situation. Ce mercredi matin, les stations-service sont pour la plupart fermées. Certains automobilistes positionnent leurs véhicules devant ces stations dans l'espoir de se voir servir. Cet espoir s'envole au fur et à mesure que le temps passe. Sur le terrain, les nombreux louchois se plaignent de voir chaque automobiliste fixer le prix de la course selon son bon vouloir.
J'habite Golf Malela. J'ai payé les taxis à 2000 francs au lieu de 1500. Et les soirs, on va payer 2500.
Moi, j'ai payé 1500 au lieu de 1000 francs. J'habite du côté Jicamine, que ça ne va pas. Les élèves arrivent en retard à l'école. Et...
Les coûts que je suis en train de gaspiller pour le transport, ça diminue même mon salaire.
Les pétroliers, pour leur part, ont bon espoir que la situation va se normaliser, comme l'indique leur président, au sortir de la réunion que la corporation a eu lundi dernier avec le gouverneur de province, Joseph Tuité.
La situation sera régularisée dans peu de jours. Nous savons que la carence d'essence est partout, que ce soit en Tanzanie, que ce soit en Zambie ou à Mozambique. Le peu d'essence qu'il y a est en train de venir et sera ravitaillé dans les stations-service.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Hausse du prix des carburants également à Tchoumbé, une cité du territoire de Lubefu, dans la province de Sankuru. Les litres d'essence qui coûtaient 4 000 se vend actuellement à 10 000 francs congolais, tandis que les litres de gasoil qui coûtaient 3 500 francs se négocient entre 7 000 et 7 500 francs congolais. Les prix des produits pétroliers sont en hausse dans toutes les agglomérations de la province du Sankuru, affirme la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Djambaka Foire est vendeur du produit pétrolier dont la cité de Tchoumbé justifie cette hausse par la rupture des stocks. Une autre cause, c'est depuis le mois de janvier que les baleinières en provenance de Kinshasa n'ont pas accosté au port de Benadibele dans le territoire des Kolé. Djambaka Foire, vendeur du produit pétrolier dans la cité de Tchoumbé, a été joint à Tchoumbé par Esther Ndalafina.
Oui, cette situation est causée par la rupture des stocks chez les gens qui nous amènent ça ici et aussi le problème des baleinières qui n'arrivent pas depuis le début de l'année 2025. Pour que cette situation puisse revenir à la normale, il faut attendre jusqu'au début du mois de mars. Nous nous approvisionnons en carburant maintenant surtout essence et gasoil à partir de l'Odja. Donc les grands patrons qui sont ici s'amènent à l'Odja, ils achètent les carburants là-bas pour nous le vendre ici à un prix à 2,5 millions. L'Odja jusque chez nous, c'est 150 km, mais vu l'état de la route, le véhicule peut quitter à Tchoumbé passer nuit en cours de route et aller arriver le jour suivant à Lodja. Et quand c'est déjà chargé, ça peut faire 2, 3, 4 jours en cours de route.
Autre nouvelle, 10 ressortissants chinois innocentés par la justice congolaise hier à Bukavu. Le tribunal de grande instance de Bukavu, au sud Kivu, assiégé au premier degré et a déclaré que les 10 prévenus ne sont nullement pas impliqués dans l'exploitation illicite des minerais dans la province. Rappelons que les 10 sujets chinois avaient été arrêtés à Bukavu le 5 janvier 2025 par le service de sécurité dans le cadre de l'opération déclenchée par le gouverneur de province Jean-Jacques Pourroussi pour traquer les étrangers qui exploitent illégalement les richesses du sous-sol congolais dans la province du Sud Kivu. Un accord de paix signé entre Benami Lombe et Bolempo a été présenté hier lundi à Kananga au gouverneur du Kasaï central. Un conflit des limites a opposé les deux groupements situés l'un du côté Kasaï central et l'autre du côté Kasaï. Après une médiation menée par la Fondation Kadima avec l'appui du HCR, les deux parties ont décidé de cohabiter pacifiquement. François Kadima.
C'est à la suite du démembrement de 2015 en RDC que le conflit a commencé autour de la gare de Bakwankenge. Elle est située à la limite entre le groupement de Benami Lombe dans le territoire de Demba au Kasaï central et le groupement Bulempo dans le territoire de Mweka au Kasaï. Les habitants de deux côtés se réclamant propriétaires de cette gare se sont affrontés plusieurs fois avec comme conséquence des morts et des maisons incendiées. Même les recommandations du forum de paix organisé à Kananga en 2020 n'avaient pas calmé les tensions. Dans le souci de ramener les communauté de deux groupements à vivre ensemble, la Fondation Kadima, avec l'appui du HCR, s'est engagée pour les aider à faire la paix. Les négociations qui ont abouti à un accord de paix signé le 14 décembre 2024 ont impliqué les deux provinces à travers le ministre provincial de l'Intérieur. Il y a eu également les administrateurs de Demba et Mweka et les chefs de deux groupements qui ont engagé leur population sur la voie de la paix et de la renonciation définitive aux actes de violence entre Benami Lombe et Bulempo. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Les Niger, les Mali et les Burkina Faso ont annoncé la création imminente d'une force unifiée de 5000 soldats pour lutter contre les djihadistes. Cette initiative dévoilée mardi par le ministre nigérien de la Défense, Salifou Modi, s'inscrit dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, formée en 2022 après des ruptures avec la France et la CEDEAO. Cette force équipée des moyens aériens, terrestres et des renseignements sera opérationnelle dans les semaines à venir. Selon Modi, il s'agit d'une réponse coordonnée à une décennie de violences perpétrées par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique.
L'invité.
Notre invité est Roger Tatawa Makolo, directeur général de la coopérative Kawa Kanzururu, basée dans le secteur des Rouenzori au Nord Kivu. Il revient sur ses échanges de 3 jours au Parlement fédéral belge qui ont réuni les agences œuvrant dans le domaine de la vérification et certification des produits congolais sur les marchés européens. De la Belgique, Roger Tatawa Makolo s'entretient avec Marc Marofimbo.
Roger Kasereka Tatawa Makolo, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous êtes en Belgique où vous avez échangé avec les parlementaires de l'Union européenne à propos de la réglementation sur la déforestation, la protection de l'environnement, la traçabilité et la certification des produits d'exportation. C'était quoi l'objectif de ces échanges?
Dans cet échange, nous avons eu à discuter sur la réglementation sur la déforestation de l'Union européenne. Cette réglementation nous rappelle au fait la protection de l'environnement. Et elle présente différents enjeux, parmi lesquels il y a la traçabilité. C'est-à-dire que dans nos coopératives ou chez les producteurs réunis dans des différentes coopératives chez nous en RDC, donc nous devons mettre en place une base de données qui montre la géolocalisation des champs avec des données GPS. En plus de cela, il y aura également les polygones qui seront aussi prélevés. Toutes ces données-là seront uploadées dans des plateformes qui permettra aussi maintenant d'évaluer les niveaux de risque de la déforestation. Nous avons intérêt de se conformer et nous avons intérêt de commencer à se préparer à cette réglementation.
Nous avons tous attendu que les cafés et les cacao congolais ne seront plus admis dans l'espace du marché européen. Avez-vous abordé cette question et si oui, quelle est la position des parlementaires belges?
Alors, parlant de la confusion qui s'est dit que les cafés congolais et les cacao ne seront pas admis à l'espace européen, je pense que c'est dans ce cadre-là, parce que le chien qui ne prouvera pas qu'il est à risque de déforestation, le produit ne sera pas également admis en Europe. C'est-à-dire, pour contourner cette question, nous devons maintenant chercher à nous conformer. Tous les chats de cacao, tous les chats de café doivent être géolocalisés et doivent aussi avoir des polygones. Donc, nous devons évaluer les niveaux de risque. En évaluant les niveaux de risque de déforestation, nous les ferons à partir des données GPS, de ces données GPS qui seront analysées, qui seront visualisées pour voir quand est-ce que le chat a été déforesté ou a été implémenté. Nous avons quand même plaidé au niveau des agences belges pour leur dire que non, chez nous en RDC, il y a quand même une mauvaise compréhension de la loi. Tout le monde l'explique de sa manière. Nous n'avons pas encore bien assimilé cette réglementation des zéro déforestation. Donc, il y a encore un travail à faire. Nous devons faire une large sensibilisation pour que tout le monde arrive à comprendre, et les acteurs privés, les étatiques, les politiciens, tout le monde, faudrait que nous arrivions à comprendre cette réglementation. C'est vrai, elle est complexe, elle n'est pas facile, mais dès lors que nous avons le marché européen, nous sommes obligés de se conformer. Du côté des agences de développement comme Enabel, nous leur avons demandé de nous appuyer à bien comprendre cette réglementation et de participer aussi à sa mise en place, parce qu'elle entre en vigueur le 30 décembre 2025. Nous avons encore 11 mois de préparation. Donc, et les producteurs, les acheteurs, tout le monde se plaigne. Mais comme c'est déjà une loi, nous sommes obligés de se conformer. Nous avons aussi plaidé au niveau des parlementaires belges pour leur dire que pourquoi nous devons subir de telles sanctions à tout moment. Flocert, pour le certificat Fairtrade qui s'est retiré, accusa la sécurité dans la zone, pendant que nous, les producteurs, nous sommes victimes. Et il y a Ecocert qui s'est retiré aussi pour le certificat biologique. Aujourd'hui, nous sommes bloqués, on ne sait comment exporter ce cacao, exporter ce café qui était déjà certifié biologique.
Roger Tatawa Makolo, une dernière question. Quel est votre message aux agriculteurs et responsables des coopératives agricoles congolais au regard de ces échanges avec les parlementaires de l'Union européenne?
Alors, le message que je peux lancer aux producteurs ou aux coopératives, aux entreprises en RDC, c'est de se conformer, c'est de sensibiliser les producteurs, de comprendre la réglementation et de se préparer aussi aux nouveaux standards qui seront mis à disposition d'ici une année.
Roger Kasereka, Tata Makolo, nous vous disons merci.
Et c'est par ici que nous bouclons cette session d'actualité de la mi-journée sur Radio Kapi. Dieudonné Nyangasa Wanyangasa a assuré sa mise en onde sous l'œil vigilant de Martin Sebujangwe et Élisée Tchikota Tshivweta. Patience Ngalula Mbombo, c'est moi. Merci à vous tous de l'avoir suivi.